Bonjour, à mes côtés Dominique, Maggie, Arlette et Claude. Vous avez compris, il s'agit des experts de l'association Sine Qua Non, des passionnés du 7e art qui se regroupent une fois par mois pour nous faire part d'un regard, d'une analyse des films qu'ils ont visionnés. Alors si vous êtes amateur, fan ou même professionnel de cinéma et si vous souhaitez rejoindre une association fort sympathique, c'est peu dire, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Dominique, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien.
Bon, Arlette, même traitement, bonjour, comment allez-vous Arlette ?
Tout à fait même traitement.
Bon, parfait. Un grand bonjour à Jean, s'il nous écoute, au passage. Voilà. Maggie, bonjour.
C'est le printemps.
Ah oui, c'est génial. Prête à nous faire part de vos impressions ?
Oui, bien sûr.
Et je termine ce tour de table avec mon cher Claude. Bonjour Claude.
Bonjour.
Pas trop difficile de vous retrouver autour de ces dames ? Elles sont pas trop... Elles vous mènent pas à la vie dure ?
Je vais essayer d'assurer.
Bon. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Hein.
Merci Aline.
Bon, parfait. Au menu de ce mercredi, Pelo Malo, Nebraska, La Cour de Babel et bien sûr le dernier d'Alain René, Aimer, boire et chanter. Alors, on démarre avec Alain René. Alain René, alors, c'est avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot et Caroline Siol. Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l'automne, par le comportement énigmatique de leur ami George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Catherine que les jours de son patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de Catherine. Alors, un mot, Dominique ?
C'est l'ultime film, comme chacun sait, de René, donc il résonne d'une manière tout à fait particulière puisqu'il est décédé quelques jours avant
la sortie
du film. Mmh. Alors moi je suis l'inconditionnel de René, certes, mais j'ai trouvé que c'était un bijou de créativité, d'inventivité. C'est une réflexion sur le cinéma, sur le théâtre. Et en même temps, à travers cette légèreté, on atteint une gravité. Mmh. Donc c'est toujours déroutant parce qu'il est à la fois léger, grave, original. Il rappelle Smoking et No Smoking pour ceux qui l'ont vu. C'est un peu le même procédé. Ces personnages qui finalement évoluent en parlant de ce Georges qui n'apparaît jamais à l'écran mais qui a un impact
et une place aussi, une grande place
mm-hmm. dans leur vie, quelle direction chacun va prendre à la suite de la nouvelle de la grave maladie de Georges. Et en même temps, la mort est omniprésente. Donc, Claude, tu veux ajouter quelque
chose ?
Oui,
on peut toucher quand même deux mots sur du scénario. Effectivement, Georges, c'est le personnage central, mais il est comme l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'on parle de lui tout le temps, tout tourne autour de lui, mais on ne le verra jamais. C'est trois couples qui se connaissent, dont un est médecin qui dit aux autres que Georges est condamné à un cancer et condamné. Et au fur et à mesure que l'intrigue avance, on s'aperçoit que les trois femmes ont été soit maîtresses,
très
soit
proches de ce fameux Georges.
Soit épouses.
Soit épouses de Georges, voilà. Et effectivement, ça fait penser un peu à Smoking, No Smoking, en moins bien, je trouve. Moi, j'avais adoré ce film, Smoking, No Smoking, ces films, puisqu'il y en avait deux. Et j'ai l'impression que René tourne un peu en rond. C'est un peu toujours le même en rond, la même histoire. Alors, on est dans le théâtre. Ces gens, j'ai oublié de le dire, répètent une pièce. On est. C'est pas du théâtre filmé, mais
c'est pas du théâtre filmé.
On est entre le cinéma et le théâtre. Et on est un peu aussi dans la mystification, il y a une intrigue. Et comme je disais, au fur et à mesure que ces trois femmes, qu'on connaît ces trois femmes, qu'on connaît leur relation avec Georges, il y a un suspense. Ces trois femmes croient qu'elles vont partir avec lui pour un dernier voyage aux Canaries. Mmh. Et on se demande qui va aller avec elles. Toutes les trois sont persuadées, chacune de leur côté évidemment, que c'est elle qui va partir. Mmh. Et à la fin, il y a une énorme surprise.
Que nous ne dirons pas.
que l'on ne dira pas,
que l'on va taire.
Mais René brouille les pistes, c'est ce que j'essaie
oui,
de dire.
Oui, ce que j'appelle la mystification.
Il a un goût du décor, une recherche, il nous surprend.
Ça ne fait pas un peu système, ça, quand même?
Non, pas du tout.
Moi, j'ai un peu peur de ça.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ce qui peut choquer un peu, mais déjà ça choquait dans Smoking, c'est des décors qui sont des décors de théâtre.
Voilà.
Donc, ça fait appel à la bande dessinée. On voit très peu de paysages.
Ouais, c'est pas du cinéma, quoi, finalement.
C'est un peu de
si,
tout.
C'est quoi le cinéma? C'est quoi le théâtre? C'est quoi le cinéma? En fait, il donne une place au spectateur. Le spectateur doit aller vers le film. Il n'est pas seulement
spectateur.
Il participe au film. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette gravité, c'est-à-dire la mort, Rhodes est omniprésente, et en même temps on voit les personnes s'agiter dans leur égoïsme, ils pensent à eux, dans la futilité de la vie, la gravité de l'approche de la mort.
D'ailleurs, le titre résume bien un petit peu l'histoire, aimer, boire et chanter.
Voilà.
C'est la vie.
La vie continue.
La vie continue malgré une fin
quand même tragique, puisque les dernières images, donc, c'est cette femme qui est devant le cercueil de Georges.
Tu vas le dire.
Aïe, aïe, aïe.
Je ne dis pas laquelle, d'abord.
Bon, ben, peut-être qu'on va écouter un extrait. Hein.
Allez.
À Georges.
Bonsoir.
T'étais où?
Je suis passée chez Georges. Je l'avais dit.
T'étais où?
Je suis passée chez Georges.
Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce Georges, c'est ça?
C'est vrai, je t'ai suivi, oui.
Tu voulais voir si Georges et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins?
Mais quoi? Mais pas du tout. C'est juste...
Quoi? C'est quoi?
Mais c'est rien, rien, je te dis, rien!
Oh non, c'est pas le moment.
Je m'en fous complètement. Mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable à cette pute? Qu'au moins je puisse dormir.
Je le lui ai donné.
J'ai l'intention d'aller passer quelques jours à Tenerife.
Ah, c'est sympa. Vous partez tous les deux?
Non.
Qui t'a invité?
Georges.
Aimer, boire et chanter d'Alain René. Un dernier mot avant de passer à la suite? Non.
Non.
Bon.
Voilà.
On a fait le tour. Donc on suggère. On peut le suggérer.
Oh, plus que ça.
Plus que ça.
Moi, on le conseille. Je le conseille fortement.
Parfait. Pélo Malo, qui est un film qui nous vient du Venezuela. C'est l'histoire de Junior, qui a 9 ans. Junior qui a 9 ans, il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés de son père, il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. Alors il adore chanter, danser avec sa grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l'homme de la famille, c'est comme ça qu'elle l'aime. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de ce film? Alors, d'abord, je vais citer le réalisateur qui est...
Mariana Rondon, c'est une réalisatrice.
C'est une dame, c'est oui, une Mariana femme, oui. Rondon, oui, exact.
Oui. Oui, alors moi ce qui m'a intéressé de prime abord, c'est le rapprochement qu'on pouvait faire avec Tomboy, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, parce que placé dans la sélection École au cinéma, il a entraîné des réactions très, très agressives de la part de ceux qui croient qu'on veut introduire la théorie du genre un peu à l'école.
Oui,
donc, j'allais y venir justement.
Oui, bon, Tomboy, donc c'était l'histoire d'une petite fille, Laure, qui, arrivant dans un quartier nouveau, se fait prendre pour un garçon sans le chercher d'ailleurs, et qui va du coup rentrer dans le jeu de cette supercherie, jusqu'à ce que finalement, bien sûr, la supercherie soit découverte. Et donc, il est question de l'identité, de l'appropriation par un enfant de son identité biologique. Bon. Et alors que dans Pélo Malo, c'est un petit garçon, Junior, qui, en raison de ses manières de faire, ses comportements et son rêve d'avoir les cheveux lisses, est perçu par sa mère comme risquant d'être gay. Et donc ça, j'ai pensé que c'était effectivement un rapprochement possible, mais en fait je crois que le sujet principal de Pélo Malo, c'est plutôt une chronique sociale dans un pays où les hommes désertent la maison. Et ça, je crois que c'est très très fort. On voit comment cette mère qui cherche en plus du travail, qui n'est quand même pas dans une grande richesse, est obsédée troublée par l'idée qu'elle ne peut pas offrir à son fils de modèle masculin. Et elle a peur sans arrêt que son fils devienne gay à cause de quelques petits signes qui, effectivement, ne seraient peut-être pas perçus d'une manière aussi gravissime si elle n'était pas justement dans cette solitude.
Oui, ouais. Parce qu'au travers de cet esthétisme capillaire, se dresse une forme de dualité chez l'enfant.
Oui, oui, mais on a l'impression que la grand-mère, qui est finalement beaucoup moins hostile à ses désirs de junior, comprend que finalement c'est pas si grave que ça, et que après tout, si ça permettait à Junior d'échapper aux comportements violents qui sont ceux de la plupart des hommes, ça lui permettrait peut-être aussi d'échapper à des risques de bagarre et peut-être même plus d'agression.
Donc, je crois que c'est surtout ça qui motive la grand-mère. Hein.
Oui, c'est
parce
ça
qu'elle dit au moins celui-là, il ne sera pas tué.
Il ne sera pas tué.
Dominique,
moi, j'ai rien vu de tout ça, mais alors rien.
Ah. Ah bon,
je me suis ennuyée, mais vraiment ennuyée. J'ai vraiment rien vu de ce que tu viens de dire, Maggie.
Pourtant, je t'assure que ça s'y trouve.
mais ça doit s'y trouver. Moi, j'ai vu une mère qui détestait, mais qui haïssait,
oui, y a un moment
qui n'aime pas cet enfant. Et elle dit, je le touche pas. Elle n'aime pas cet enfant. Moi, j'ai pas vu d'évolution. J'ai pas vu de tout ce que tu dis là sur l'homosexualité.
Ah ben, il faut retourner le voir.
Qu'il risque de devenir gay.
Non, absolument pas.
Il y a l'angoisse de la maman qui est.
Ce que j'ai vu, la seule chose que j'ai vu, c'est qu'il était frisé, qu'il voulait. Et donc, que son père était certainement black et que la mère souffrait de l'abandon.
Non, il est mort, le père. Il a été tué, c'est un policier ou un militaire, c'est ça. C'est ça aussi qui est enfantant de fond.
Et donc, il manque d'amour. C'est une mère qui n'aime pas son fils. On ne sait pas trop pourquoi.
Sur un plan psychanalytique, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Moi, j'ai pas vu ça, mais à la différence de Dominique, je n'ai pas vu le film.
D'accord, c'est pour ça.
Moi, je voudrais aussi dire que ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce film, c'est qu'on voit que la vision des adultes, leur projection sur les enfants, eux, le subissent comme une espèce de pression sur eux qui n'est pas justifiée. Ils sont gamins, Junior est très copain avec une petite fille de son immeuble, et tous les deux, ils vivent dans un univers de jeu.
Mais d'innocence aussi.
Voilà, d'innocence, et effectivement, le désir de la fille de devenir une Miss Univers, Miss Venezuela ou je ne sais quoi, et le désir de Junior de devenir un chanteur se traduisent par des jeux justement, et des jeux sur l'apparence. Et ça, je crois que c'est très très important, cet aspect de jeu sur l'apparence. Mais que la mère déteste son enfant, moi j'en suis pas si sûre.
Non, je
pense qu'elle elle a très peur, et elle se sent complètement seule par rapport.
Oui, peut-être que cette peur, elle est traduite par une certaine agressivité.
Ah, voilà, à un moment donné, elle dit à son enfant, ou plutôt c'est lui qui lui dit je ne t'aime pas, et lui dit je ne t'aime pas, et elle répond moi non plus, et on sait très bien que c'est justement une espèce d'exutoire à leur relation difficile.
Elle est perverse, il y a une scène où elle fait l'amour avec son boss,
elle regarde
le petit garçon,
elle veut montrer à son fils comment il doit être un homme. C'est très maladroit de sa part.
Mais c'est le médecin qui a dit, il faut lui montrer une relation homme-femme,
c'est le médecin qui a sur un plan psychanalytique, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Tomboy, quand tu parles de Tomboy, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, Tomboy.
Non, mais attends, c'est pas le sujet, ça.
Mais si, Maggie l'a évoqué.
Donc,
je vois vraiment pas le lien avec ce film-là.
Le seul lien, c'est le fait que c'est des préadolescents et que dans l'un et l'autre cas, il y a un doute sur leur identité sexuelle. C'est ça le lien. Mais je répète que
l'identité sexuée,
on va dire, pour être dans le vent. Mais en fait, le sujet de Pelomalo, je dis, moi, c'est plutôt une chronique sociale et beaucoup plus qu'une chronique psychologique.
Alors, je vais tenter de la reposer pour une troisième fois. Elle est passée à travers sur un plan psychologique. Psychanalytique, qu'est-ce qu'on peut dire de cet enfant ? Ou je me trompe d'émission ?
Je ne sais pas, moi je suis pas psychiatre, aucune idée.
Je me trompe peut-être d'émission.
Il manque de modèle masculin.
Exact, oui. L'absence du père. L'absence du père qui fait que l'enfant se cherche.
Ouais, exact. Et d'ailleurs, la mère finira par le conduire à lui sacrifier ce que lui, Junior, a de plus cher. Je n'en dis pas plus.
Voilà.
À suivre. Voilà, alors Pelo Malo, film réalisé par Mariana Rondon avec Samantha Castillo, Samuel Lange Zambrano et Beto Benitez. Autre sélection du jour, alors on a retenu également Nebraska. Alors Nebraska, film réalisé par Alexander Payne avec Bruce Dern, Will Fort et John Squibb entre autres. C'est l'histoire d'un vieil homme persuadé qu'il a gagné le gros lot. Il a un improbable tirage au sort par correspondance, il cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain. Il y va à pied puisqu'il peut plus conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse et l'équipé fait une étape forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui s'avère être le lieu où le père a grandi. C'est ici que tout dérape. Cela reste une comédie, bien sûr. Alors, un mot sur Nebraska. Alors, Arlette ?
Moi, je trouve que c'est un film très, très, très important sur la tendresse filiale d'abord. Sur plein de choses, entre autres sur la révélation faite aux enfants que les parents ont eu une vie avant eux. Ça, alors aussi, c'est assez remarquable. Et puis aussi sur le désir de ce vieux grognon de père qui voudrait quand même laisser quelque chose de lui à ses enfants. Tout ça, c'est sous-jacent, mais c'est très très beau, très bien exploité, je trouve.
Alors, c'est filmé en noir et blanc, hein.
Oui, mais c'est pas gênant du tout.
Ah non, du tout.
Ah non, ça.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maggie.
C'est Arlette qui parle
Arlette,
là.
Pardon. Moi, j'avais beaucoup aimé le film précédent qui s'appelait Les Descendants. Donc, mais surtout le Sideways qui racontait. Il y a des points communs. Il y a deux personnages principaux. Et c'est un road movie dans les deux cas. Mmh. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est ces rapports entre ces personnages, ces rapports père-enfant et mère-enfant aussi,
très
parce
beau,
que la mère, c'est une mégère,
ah oui, la mère,
c'est un peu le négatif
du
père, si on peut dire. Mmh. Et aussi, on voit cette classe moyenne américaine qui est quand même frappée par la crise. On la voit pas souvent au cinéma. Mmh. Et on voit aussi des personnages, des paysages qu'on ne voit pas souvent. C'est quand même une épopée en voiture de 1500 km. Mmh. Et on voit aussi des gueules, passez-moi l'expression, mais quand il arrive dans ce village, cette petite ville où il a vécu pendant quelques années, le fameux Woody, le père... Mmh. Il est accueilli dans la famille de son frère. Et là, il y a deux enfants.
Il y a une galerie de portraits, là, géniale.
Qui mérite un détour, quand même.
Oui, parce que,
ah oui, d'accord. Oui.
Toute la famille.
Dans le genre caricature, c'est difficile de faire mieux, je crois.
Moi, je trouve justement que c'est très fort au point de vue des images, ce film. Mm-hmm. Il y a le sujet, bien sûr, et je suis d'accord aussi avec Arlette, mais ces paysages dont vient de parler Claude, tout ça, c'est en noir et blanc, c'est plat, et pourtant, il y a des nuages. Et ce sont les nuages qui donnent du relief. Et j'ai trouvé qu'il y avait des panoramiques sur ces nuages et sur ces paysages qui étaient magnifiques et qui, heureusement, donnent un peu de relief, disons, à ces paysages traversés. Et alors, les cadrages aussi sur la famille du père assise sur un canapé devant la télé qu'on ne voit pas mais qu'on entend et c'est extraordinairement significatif de l'abrutissement par la télé et par la bière parce qu'il y a aussi beaucoup de références à la boisson et à la bière. Donc moi j'ai trouvé que
pour tuer l'ennui
ce qui les empêche pas de parler voiture par instant.
Oui, bien sûr. Et alors j'ai beaucoup aimé aussi en effet la relation du jeune fils à son père, dont on a l'impression au début que c'est un peu par lassitude qu'il l'accompagne. En réalité, il joue un rôle d'ange gardien, je trouve, dans ce film. Et il est convaincu que finalement, c'est le dernier rêve de son père.
Exactement.
Et qu'il faut l'accompagner. Et je crois qu'il arrive finalement à en convaincre à la fin, son autre frère et sa mère, qui pourtant, Dieu sait, au début, nous paraît vraiment une harpie. Hein. Mmh. Et à la fin, on a une espèce de reconsolidation du groupe familial.
Voilà. Il arrive à les faire adhérer, en fait. Hein.
Voilà. Même la mère qui finit par le défendre,
oui,
son mari, alors qu'elle
l'accuse
d'un tas de noms d'oiseaux.
Oui.
Alors, pensez-vous que Payne a réussi à dresser, à travers ce film, un drame touchant, mélancolique, mais à la fois doux et avec une certaine justesse ?
Ah oui, tout à fait. Je crois.
C'est très juste.
Il y a de tout. Il y a du grinçant, il y a de l'humoristique, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait qu'on ne se lasse pas au cours du film. Parce que ça pourrait être sinistre tout le long, cette histoire.
Ah oui, et en fait,
ça ne l'est pas.
En fait, c'est un road movie, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Oui. C'est un road movie type qui rappelle un peu le Jarmusch du début. Hein, il filme, c'est très bien filmé. Moi, j'ai vu également une critique de la société de consommation, où l'arnaque, on reçoit dans nos boîtes aux lettres.
Vous avez gagné un chèque.
Le point de départ du film. Vous avez gagné un chèque de...
Un million de dollars.
Mais ça va pas plus loin, c'est pas ça le sujet du film, parce que ça, on en parle comme ça, et c'est le déclencheur.
C'est peut-être le déclencheur, mais c'est quand même...
C'est important, parce qu'on voit bien à quel point la frustration provoquée par ce gain de Woody par rapport à ses voisins et sa famille montre qu'eux rêveraient tous de pouvoir gagner une
d'être
telle
à sa place,
somme, d'être à sa place, et même si le fils leur répète sans arrêt, mais non, c'est pas bon, ils croient qu'eux, mais c'est pas possible, eux ne veulent pas croire le fils, ils veulent absolument croire que Woody va enfin gagner tout cet argent et leur rembourser ou leur faire des cadeaux. Enfin, il y a une espèce de d'avidité de tous.
Oui, de rêves, de faux rêves. Ce qui m'a particulièrement touchée, moi, ça me révolte tellement. C'est révoltant, enfin, ces pratiques-là.
Oui, mais ça reste le sujet déclencheur de cette traversée que le père va.
Oui, mais on comprend bien qu'un certain nombre de petites gens se font avoir à ça. C'est bien sûr que c'est le déclencheur, mais il aurait pu déclencher ça par autre chose.
Ce qu'on voit, c'est quand même un peu l'envers du rêve américain.
Oui. Voilà, oui, tout à fait.
Cette situation de ces gens qui sont pas misérables, mais qui sont un peu paumés et qui sont sans illusion surtout, c'est ça.
Oui.
Ça rappelle un petit peu quand même, je sais pas si vous avez vu Stray Story, qui est ce road movie à travers justement le Nebraska aussi, de ce vieux qui apprend que son frère va mourir et qu'il va le voir
sur sa tondeuse à gazon.
Sur le motoculteur.
Oui, tout à fait.
Oui, Arlette.
Oui, moi je crois que oui. Enfin, il y a un petit peu de ça, mais bon, sans plus quoi. Mais c'est quand même une espèce de parabole, ça. C'est surtout la tendresse du fils qui comprend que son père, c'est vraiment le dernier rêve de son père et qui veut l'aider à l'accomplir. Ça, c'est
finalement,
très, très
il gagne
ça.
Quelque chose, mais on ne dira pas quoi. mais il y a des moments comiques, je pense que c'est important.
Il y a des moments vraiment
drôles. Il ne faut pas non plus penser que
c'est un film très agréable et important, moi, je pense.
Oui.
Et en fait, cette traversée, ce voyage qu'il fait avec son père, ça permet comme ça d'approfondir une complicité.
Ah, c'est la réconciliation du père et du fils. C'est classique dans le passé.
Oui, Arlette l'a dit. Oui, le fils découvre
le passé des parents.
Le passé des parents. Voilà. Les parents n'ont pas été tout le temps ces vieux qui sont là.
Les copains et les copines d'un temps.
Et comment ils étaient perçus par les copains
et puis ils apprennent qu'il a fait la guerre de Corée.
De Corée. Ça, ils savaient pas.
Et qu'il en est revenu touché, quoi.
Mais ce sont des petites touches, justement, qui ne sont pas soulignées, mais qui sont,
je pense, très fines.
Alors, ce film a valu le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes à son acteur principal, qui est Bruce Dern, à l'âge de 77 ans, star des années 70. On peut dire qu'il signe ici un grand retour.
77 ans, c'est difficile de faire un retour. ou alors, c'est le dernier.
Ou une grande fête.
Je n'ai pas dit l'éternel.
Vu l'espérance de vie, on peut encore espérer.
Oui.
Mais donc, au point de vue rôle, il est quand même limité dans ses choix, je pense.
Oui.
À 77 ans.
Il interprète bien un vieux de plus de 77 ans, à mon avis.
Oui. Et puis comme maintenant la vieillesse est un thème qui est cher au cinéma, on a vu ces deux, trois dernières années pas mal de films sur le sujet, peut-être que ça lui ouvre aussi une carrière, nouvelle carrière.
Ah, pourquoi pas. Et c'est tout le mal qu'on va lui souhaiter.
Ça va être un vieux premier.
Oui. Le meilleur dernier rôle.
Voilà.
On passe à La Cour de Babel, réalisé et mise en œuvre par Julie Bertuccelli. Avec l'accent, ça passe mieux. Alors, ce sont des enfants qui ils viennent d'arriver en France. Ils sont irlandais, serbes, brésiliens, tunisiens, chinois ou sénégalais. Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans. Réunis dans une même classe d'accueil pour apprendre le français, dans ce petit théâtre du monde s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse et l'intégration et ils nous font espérer en l'avenir. Alors, qui a vu ce film documentaire ?
Oui, nous.
Tout le monde l'a vu.
Ouais, on est parfait. Nous, moi, tous. Je voudrais commencer à dire un grand merci à Arlette.
Pourquoi ?
Parce que j'avais pas envie de le voir, ce film. Je pensais que j'avais été un peu déçu, moi, par Entre les murs, il y a quelques années. Mm-hmm. Je m'étais dit, c'est le même sujet, tu vas t'ennuyer. Et finalement, j'ai trouvé ce film magnifique.
Non, c'est pas du tout le même sujet.
C'est quand même un documentaire.
Au départ, enfin, ou alors le film avec Adjani aussi, qui s'appelait...
La journée de la jupe.
La journée de la jupe, qui était très réussi.
Non, mais c'est des films.
Alors, il y a ces enfants, il y a cette école, il y a cette ambiance. Et il y a surtout Brigitte.
Ce professeur.
La maîtresse, alors moi je dis, mais on devrait la mettre à Sèvres comme professeur étalon, tellement elle est superbe. Voilà. Je pense que si tous les maîtres étaient comme elle, on n'aurait pas des problèmes qu'on a aujourd'hui.
Dire un petit peu
voit pas au début, c'est-à-dire ce qui est très habile, je pense, de la part de Julie Bertuccelli, c'est qu'elle est en voix off, et en fait, peu à peu, elle rentrera dans le champ vraiment à la fin, et c'est à ce moment-là qu'on verra à quel point, justement, ses élèves lui sont attachés, c'est le moment où ils se disent adieu à la fin de l'année, mais je trouve
qu'elle... On n'a pas dit qu'elles étaient ses élèves, il faut le dire, là, on ne l'a pas dit.
Si, il l'a dit,
Si, ils sont de différentes...
Une classe d'accueil, dans le collège de la
Il y a une vingtaine de nationalités différentes.
Ils sont âgés de 11 à 15 ans. Très vous ne m'écoutez
coloré.
Pas, Dominique.
Hein. Très
élèves, là.
Hein.
Oui. Et elle est à la fois présente, mais elle s'efface pour que ce soit eux qui soient au centre de la prise de vue, bien sûr,
et
de la télé du film. Et tous les procédés pédagogiques qu'elle utilise contribuent justement à les faire s'exprimer, se rencontrer, se comprendre ou discuter, parce qu'ils ne sont peut-être pas toujours d'accord. Et je trouve que c'est une performance à la fois de l'enseignante, bien sûr, mais aussi de la réalisatrice.
La réalisatrice, parce que vraiment, la caméra, on la sent pas. Et on sent que les personnages ne voient pas la caméra.
Et
ils
je
ont
pense
des
que,
réactions.
Ah oui.
Il
mérite aussi d'être souligné que c'est aussi... comment dire, un pari réussi pour ce type de classe qui a été mise en place en France pour aider des enfants qui débarquent, qui ne connaissent pas les codes de la société.
Une classe d'accueil, ça
d'ailleurs,
s'appelle.
D'ailleurs, on voit bien que sans arrêt, il y a l'arrière-fond de à partir de quand pourront-ils être dans une classe normale, est-ce qu'ils peuvent aller dans une classe normale au moins à mi-temps. Enfin, il y a la volonté de ne pas les maintenir.
D'intégration, de les intégrer.
Et c'est ça, et de les faire aller très rapidement, le plus rapidement possible, dans une classe où ils seront avec d'autres élèves français, parlant français, alors que là, ils en sont vraiment à l'apprentissage et ils sont extraordinairement performants pour apprendre la langue si rapidement, je trouve.
Parce que bon, ça mérite quand même d'être souligné, parce que souvent, on parle de la désintégration, mais là, quand même, on voit qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre.
Il y a une volonté d'intégration de la part de l'éducation nationale. Moi, je trouve ça génial, vraiment très, très bien, très fort et très bien réalisé, surtout.
Oui, Dominique ?
Non, mais moi, j'ai vu ça comme un petit théâtre. J'ai vu ça comme un petit théâtre où les enfants expriment leur énergie, leur innocence et surtout leurs rêves, où on voit leurs contradictions. Qu'est-ce qu'il y a de mal à voir ça comme un petit théâtre ?
Non.
Oui, mais c'est le théâtre de la vie.
C'est le théâtre de la vie.
Moi, j'ai vu des déracinés qui cherchaient des racines.
Oui, mais c'est pas théâtral.
Et puis, c'est sur 4 saisons, on voit un arbre, on voit la neige. Ça, c'est ponctué par un arbre qui se couvre de fleurs, ensuite
de neige,
etc. Donc, c'est sur 4 saisons. C'est un film bouleversant qu'il faut voir.
Oui.
Vraiment.
Moi, ce qui me frappe, justement, c'est que depuis une dizaine d'années, apparaissent tous les 2 ou 3 ans peut-être, un film sur l'école qui arrive à intéresser un grand public. Je crois que ça a commencé avec Être et Avoir de Nicolas Philibert, où il y avait justement ce rythme des saisons qui ponctuait l'année classe unique. Il y a eu ensuite Entre les murs, il y a eu La journée de la jupe qui était peut-être avant Entre les murs, ça je ne me rappelle plus.
Avant, oui.
Et puis maintenant donc cette Cour de Babel. Je crois que le grand public, grâce à des réalisateurs de talent quand même,
bien sûr.
est capable de s'intéresser au devenir des enfants et des adolescents à travers une institution qui, par ailleurs, subit beaucoup d'attaques et qui, justement, là, montre, peut-être, ces films montrent à quel point on a affaire à l'école à des tâches extrêmement difficiles.
Difficile, oui.
Et où on arrive pourtant à aider ces élèves en devenir.
Et tous les moyens qui sont mis en place, même les moyens, comme on peut voir, l'institutrice, la professeure qui est là, qui apporte comme ça beaucoup de choses. Humainement, elle apporte beaucoup à ses enfants.
Ce qu'il faut dire aussi, elle apporte à ses enfants. Moi, vraiment, j'étais ébloui par cette femme, mais aussi aux parents.
Aux parents.
Parce qu'elle reçoit les parents qui ont tous des petits problèmes.
Des gros problèmes.
Même des gros problèmes, c'est ce que j'allais dire. Et elle est là, et elle les calme, elle les oriente, elle les apaise. Vraiment,
la gloire de l'institut.
Oui. Et on voit d'ailleurs que les adolescents, quand ils sont reçus avec leurs parents, sont déjà des passeurs. C'est-à-dire que c'est souvent eux qui traduisent à leurs parents. Et ils font preuve d'une maturité que beaucoup de collégiens français du même âge n'auraient sans doute pas. Mm. Mais étant donné ce qu'ils ont vécu...
C'est une question de parcours,
question de parcours.
Donc, au travers de leurs doutes, leurs espoirs, est-ce qu'on peut qualifier ce documentaire de leçon de vie, de liberté pour le spectateur?
Certainement, certainement.
Oui. Dominique? Oui, non?
J'ai été bouleversée par ce film, vraiment. C'est des portraits d'adolescents, enfin, tout ce qui vient d'être dit, je le partage.
Parfait. Alors tout à l'heure, je parlais au niveau du plan psychanalytique, et là sur un plan biblique, la cour de Babel, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Confusion des langues, évidemment.
Bon, alors un dernier mot sur la cour de Babel pour conclure.
Moi, je crois que ce qui m'a plu, parce que moi, je fais de l'alphabétisation. Quand j'ai vu cette manière qu'elle avait de faire avec tous ces élèves qui vont écrire au tableau dans leur propre
dans leur langue, dans leur propre écriture.
Là, on est vraiment dans la tour de Babel, parce que leur écriture n'est compréhensible que par eux.
Par eux-mêmes, oui.
Et alors que progressivement, ils vont arriver à vivre ensemble, et à faire une unité de classe. Moi, j'ai trouvé admirable.
Grâce aux Français qui vont petit à petit apprendre.
Qui va devenir leur langue commune.
Oui. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'ils réalisent un film donc, qui gagne un prix dans un concours
de films lycéens.
Ah oui, les élèves.
Ça les unit, ça les façonne.
Et le thème du film, c'est la différence.
D'accord. On va écouter un extrait de la cour de Babel.
Mihao. Ayou Bovan, Sabah al-Khair.
Dobri day.
Dobri day.
On dit salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays.
À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile?
Non. Avec qui tu t'entends bien dans la classe?
Personne, avec moi-même.
Oublie la caméra.
Hop. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile.
Je suis venue en France pour faire un futur.
Je suis venue en France pour devenir une femme libre.
Matin comme à tous ces oreti, Yasna.
Pourquoi Kessa critiquerait tes cheveux crépus alors qu'elle a aussi des cheveux crépus?
Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil mais qui est pas très gentil, tu vois. C'est comme si nous on était des pauvres, eux des stars.
Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire.
Peut-être toi tu sais dire bien mais moi je sais pas. C'est pas grave.
Je parle français avec l'accent.